Bonjour à tous. Bienvenue ici et merci de consacrer votre matinée à l'imaginaire et ses rituels, plutôt qu'à la montgolfière ou au body painting. Mais des émotions esthétiques ou ascensionnelles proposées par Eric Valdefort. Alors la règle du jeu, je le rappelle, elle ne change pas, intervention d'Eric, le temps qu'il souhaitera. Et ensuite, question ouverte à votre demande ensuite. Avec Eric Giacometti, on accueille d'abord un auteur très très original, tout simplement parce qu'il a des lecteurs. Et plusieurs millions. C'est une idée qui m'a fait réfléchir, parce qu'effectivement, il a plus de lecteurs que tous les auteurs qui sont ici dans l'imaginaire. Un des garçons libraires vous vénère pour cela. Et Flaubert est édité à quelques centaines d'exemplaires. On vous a écouté hier sur le rituel de la création littéraire avec Jacques Ravenne. Série à succès autour d'un commissaire franc-maçon, Antoine Marcas. Le talent sans le travail n'est qu'une sale manie, désirez-vous. Mais auteur aussi, toujours ensemble, d'une épopée littéraire, avec la sortie ce mois-ci, je crois, du tome 6 de la fameuse saga du Soleil Noir, qui s'appelle Le Graal du Diable, avec une ambiance à la Nosferatu, semble-t-il. Vous êtes aussi le scénariste de L'Argo Winch, une BD adulte la plus vendue au monde.
Non, surtout pas. C'est Astérix.
C'est Astérix.
Très, 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 très.
Je connais surtout l'Argo Winch.
C'est un peu comme on pourrait dire les effectifs du Grand Orient et du Petit Orient de Bretagne, quoi.
Oui, très bien. C'est en tout cas dire le bonheur de vous accueillir rituellement chaque année. Et c'est toi d'accueillir le journaliste d'investigation que vous avez longtemps été et continuez à être, notamment dans le domaine de la santé, avec une grande expérience, qui sont contaminés d'hormones de croissance, d'hépatite B ou de zyrmérides. Dans ces temps de complotisme, la recherche de la vérité devrait être remboursée. Le livre, je l'ai mis là, roman graphique par Eric, Irène Frachon et François Duprat, chez Delcourt, et je le confirme qu'il se lit en une seule fois. C'est un thriller social où la présence d'Antoine Marcas aurait été bien utile. Mais si on repense à notre thème rituel, on verra que dans cette histoire tragique, le respect de l'usage commun, du chacun à sa place et dans son rôle, ce communautarisme d'essence va provoquer une catastrophe sanitaire. Alors Eric, ma première question, médiateur, un accident qui cherchait l'endroit où se produire, ou le respect aveugle d'une liturgie par tous les acteurs?
Voilà.
Ah, vous l'avez dit.
Ah oui, là, ça commence fort. Merci d'être venu ce matin à 11h pour entendre parler du médiateur. Bravo. Respect. Non, alors pour répondre à cette question, je dirais que c'est à la fois une volonté délibérée de la part du laboratoire de mettre sur le marché des médicaments qui, à la base, poser problème, dès le début, on verra pourquoi, et ensuite un enchaînement de causes, de circonstances, d'incompétences, de corruption, de lâcheté, qui ont fait qu'on soit arrivé à une catastrophe sanitaire. Alors en parlant de ça, évidemment, moi je ne suis pas, à la différence des Marcas, je suis co-auteur avec Jacques Ravenne, 50-50, par rapport à Irène Frachon, je suis co-scénariste, mais c'est avant tout son histoire, c'est sa quête, c'est sa quête initiatique en quelque sorte, et ça c'est très intéressant, parce que j'en ai parlé avec elle, et si vous voulez, on pourra peut-être en reparler, je suis dans une assemblée maçonnique, moi je trouve quelque chose d'initiatique dans son combat, et c'est à travers ça, à travers toute cette histoire en fait, au-delà d'un scandale sanitaire, on pourrait se dire, c'est une énième histoire d'effets indésirables de médicaments. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. C'est, en fait, une véritable atteinte à la démocratie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, si l'on considère qu'une république, une démocratie, emploie des professionnels pour protéger ses citoyens, un peu comme on a une armée pour nous défendre d'agressions extérieures, on a une police et une gendarmerie pour nous défendre d'agresseurs intérieurs, on est censé avoir une armée sanitaire qui est censée nous protéger de ces agressions médicamenteuses quand elles se produisent. Et là, ça n'a pas fonctionné. C'est comme si, tout d'un coup, et on verra pas, on pourra en parler, c'est ça qui m'a le plus frappé, au-delà d'un laboratoire qui a mis un médicament pourri, quelque chose d'assez classique, c'est le fait que tous ces remparts, tous ces verrous ont dysfonctionné. C'est pas moi qui le dis, Si c'était selon moi qui le disait, oui, Irène Frajon, ça n'aurait qu'un intérêt. C'est ce qui est ressorti d'un rapport de l'IGAS, du premier procès qui s'est tenu au pénal, et maintenant, voilà, on répondra aux questions. Une autre question.
On peut déjà même faire circuler la parole, parce que ça pourrait faire ça sous forme de débat, s'il y a déjà des personnes dans les questions posées sur ce point-là.
Ou vous voulez que je recadre l'affaire, comme ça vous avez les grandes lignes. Voilà. Alors, en gros, le Mediator, donc, c'est un médicament qui a été conçu, fabriqué, produit par les laboratoires Servier. Est-ce qu'il y a quelqu'un des laboratoires Servier parmi nous? Non, mais ce sont des spécialistes. Quand ils donnent des conférences, il y a toujours quelqu'un du laboratoire Servier qui vient pour prendre des notes, pour l'attaquer. Donc, nous sommes entre amis, c'est très bien. Ça a été conçu dans les années, on va dire, dans les années 60. Ça fait partie d'une famille de médicaments où on trouvait le pondéral, l'isomeril. C'était des médicaments qui étaient utilisés pour traiter, pour accompagner l'obésité. Voilà, des cas, on était dans des phénomènes d'obésité, donc il fallait ces médicaments pour réguler certains mécanismes glucidiques, lipidiques. Ça a été commercialisé à outrance, et cette famille a une particularité de cette famille de médicaments, fenfluramine, benfluorex, tout ça, ça vient, ce sont des dérivés d'amphétamine. Alors si je vous dis amphétamine, tout de suite, ça vous semble un peu plus suspect. C'est là où ça devient intéressant. C'est qu'à la base, quand on voit la création des amphétamines, ce sont des molécules très particulières qui ont été découvertes au début du siècle dernier. Dès le début, les amphétamines ont été produites par des laboratoires pharmaceutiques, essentiellement allemands. Et on trouve la première utilisation à première échelle pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands envahissent l'Europe et quand ils envahissent la France. Leurs soldats sont mis sous la pervitine. C'est un médicament amphétaminique qui avait une particularité qui tenait les soldats éveillés. C'est-à-dire que là où un soldat français avait peut-être 48 heures et ensuite après il tombait, il était plus efficient, un soldat allemand pouvait tenir jusqu'à 4 jours. Ça a été l'armée allemande et la Luftwaffe ont commandé ça à des millions de comprimés. Il y a eu un bouquin qui a été écrit là-dessus, des enquêtes, on l'a su bien après, mais ça explique aussi le mythe de l'invisibilité allemande. S'il y a eu en 40, je fais juste un aparté, si en 40 les Allemands étaient plus malins que nous, c'est-à-dire ont déjoué tous les pronostics des alliés, c'est indéniable. En revanche, les soldats avaient une endurance supérieure à celle des alliés, clairement. Et pour vous donner un exemple, les Allemands qui sont des gens très, très efficaces, on commande à ces laboratoires des barres chocolatées pour les pilotes de la Luftwaffe et pour les tankistes. Et on appelait ça la Panzer amphétamine et la Luft amphétamine. Et c'était, on distribue, vous partiez en mission, vous donnez ça, barres chocolatées, vous avez ça. Et ils se sont aperçus que ces amphétamines avaient une particularité. Les gens qui prenaient ça n'avaient pas faim. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se passer de manger. Ils pouvaient boire, ils pouvaient se passer de manger. Et ça, c'est intéressant. On découvre une propriété qui était coupe-faim. Prenez amphétamines, coupe-faim. Ah, intéressant. La Seconde Guerre mondiale se passe. Les Alliés, voyant ça, sont au courant, produisent à leur tour la benzédrine, amphétamine, et allons-y. Ils donnent ça à leur troupe. Et après-guerre, les laboratoires pharmaceutiques américains sont les premiers à se mettre sur le marché. On reproduit la publicité de l'époque. On va donner ça aux enfants. Donc, vous avez des pubs pour les enfants. Donnez-leur des amphétamines. C'est bon, ça les fait tenir. Ça leur donne de la vigueur. On donnait aussi des sels de radium, au début du siècle, faut le savoir. C'était à l'époque où vous aux vertus, des propriétés de la pharmacopée. Les pubs commençaient à apparaître des amphétamines pour les femmes, pour garder la ligne. Avec des stars hollywoodiennes. Donc voilà, on voyait des belles femmes. Et dit, si vous voulez être comme ces femmes, prenez nos amphétamines. Et dans les vols commerciaux, quand vous preniez l'avion, on vous proposait des amphétamines pour tenir le vol. Parce que ça calmait les angoisses. Tout est merveilleux, payer des amphétamines. Si ce n'est que progressivement, on va s'apercevoir qu'il y a un effet quand même secondaire un peu compliqué, c'est que certaines personnes commencent à avoir des troubles pathologiques importants. Et se comportent comme des ce compte devient très agressif. Tout d'un coup, certains, à force d'ingurgiter des amphétamines, n'ont plus de notion en particulier du bien et du mal. Ça, c'était documenté après. Et ça explique aussi pourquoi certains, beaucoup de soldats qui ont pris ça, pouvaient massacrer allègrement. Ils étaient souvent étaient sous amphétamines. Ça ne veut pas dire absolument que les Allemands, les SS, étaient inconscients de ce qu'ils faisaient. Pas du tout. Mais même les Alliés ont vu que ça donnait un surcroît d'agressivité. Donc vous voyez, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on arrive, et alors là, les amphétamines vont prendre un bond incroyable avec ce qu'on appelle maintenant les people. C'est-à-dire que vous avez des gens comme Sartre, comme Jacques Kerouac, comme Elvis Presley, qui vont ingurgiter des amphétamines. Pourquoi ? Parce que ça dope la créativité. Et à Hollywood, il y avait des trafics d'amphétamines. Et l'OMS va commencer à mettre son nez là-dedans, enfin les autorités de santé. Progressivement, on va restreindre ça, et ces amphétamines, on ne va plus pouvoir se les procurer. Mais certains laboratoires se disent, c'est dommage parce qu'elles ont des propriétés coup de faim, elles ont des propriétés, elles peuvent avoir des effets intéressants en termes pour veiller, donc on va essayer de trafiquer ces amphétamines pour faire des molécules dérivées. Et c'est la course. Chacun va y aller de sa petite molécule, et le laboratoire Servier, qui à l'époque se lancer, c'était un tout petit laboratoire qui a été créé par Jacques Servier, qui venait d'Orléans, fils de pharmacien, pas du tout une multinationale, se dit, moi, je viens d'une famille d'Auvergnat, alors tout ce que je vous dis, ça a été documenté, j'ai toujours souffert de la malbouffe et de l'obésité chez les Auvergnats, je pense que le combat dans les décennies à venir, ce sera le poids. Il était visionnaire, il avait déjà prévu que lutter contre le surpoids allait être un enjeu majeur de santé publique, ça on peut reconnaître cette vision. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va créer ses chercheurs vont créer ses molécules. Et on va voir l'isomérite, le pondérat, le médiator. Les années passent, les décennies passent, on commence à avoir des signaux d'alerte, les amphétamines deviennent vraiment sulfureuses, mais Servier dit, ce ne sont pas des amphétamines. Et ça, c'est très important, il va toujours dire aux médecins, ce sont des dérivés, mais ce ne sont pas des amphétamines, on a les bons côtés, pas les mauvais côtés. Et ça va être tout le discours qui va être balancé aux médecins via les représentants médicaux. Donc les médecins, bonne foi, beaucoup, bah, prescrivaient de l'isomérite, du pondéral, du médiator, en se disant, bon, allez, on le donne à des gens qui ne sont pas forcément obèses. Énormément de clients et des clientes sont venus là, parce qu'ils ont vu dans des articles, dans des journaux médicaux, dans des journaux féminins, prenez un cachet d'isomérite, vous allez perdre du poids. Et il y a toute une clientèle qui s'est développée comme ça. On va dire, dans le monde, ce sont des millions de personnes qui absorbait ces pilules, et les médecins, on peut dire qu'ils n'avaient pas la capacité pour vérifier si c'était de la saloperie ou pas. On arrive dans les années 90, et là, l'un des médicaments, l'isomérite, ça y est, les signaux arrivent un peu partout en Europe, et je vous le fais en résumé, l'isomérite est interdite. Ce sont des warnings, ça vient des États-Unis, là on dit stop. L'Europe se calque à la décision des États-Unis. Mais Servier avait gardé le médiator, en disant le médiator et l'isoméride, c'est la même famille, mais c'est absolument pas les mêmes molécules. Alors vous imaginez, Servier a balancé de l'isoméride, on sait que ça provoquait des atteintes cardiaques et pulmonaires, en particulier ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, et ça c'était l'unité de Beckler à Clamart qui s'en est emparé en premier, qui a fait des conférences, qui a fait des rapports extrêmement précis. Et à l'époque, on se dit, mais le médiator, c'est peut-être pareil. Et là, Servier a fait tout un travail d'obstruction en disant, ça n'a rien à voir. Alors, on a continué le médiator. Alors que l'isomérite. Et Hélène Frachon, à l'époque, était stagiaire interne à Beckler. Et elle a traité des patients d'HTAP. Alors, l'HTAP, il faut savoir, c'est une seule maladie. Vous devez faire une double grève du poumon. Voilà, c'est terminé. Et elle a vu toutes ces patients qui étaient là. Déjà, Servier l'isomérite, il y avait des warnings en disant ce laboratoire, il y a un problème. On arrive, le temps passe, on arrive 10 ans plus tard. Irène Frachon est pneumologue à Brest, dans son hôpital. Elle fait son travail de pneumologue. Et là, elle traite une patiente qui a bout de souffle. C'est curieux. HTAP, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et elle lui demande, qu'est-ce que vous prenez comme médicament ? Elle lui dit, je prends ça, ça et ça. Et elle lui dit, est-ce que vous avez pris l'isomérite ? Oui. Mais elle lui dit, mais je prends du médiator. Et bon, médiator, c'est quoi ? Et là, c'est à partir de là, juste un déclic. Elle va se dire, mais j'ai vu ça quelque part. J'ai déjà entendu parler de cette histoire de Mediator. Il se trouve que Irène était abonnée à une revue qui s'appelle Prescrire. Prescrire est la seule revue médicale qui ne dépend pas des labos pharmaceutiques. C'est toute la presse médicale vit sur le dos de l'industrie pharmaceutique, est arrosée. Prescrire, ce sont les seuls à refuser. Et d'ailleurs, vous avez parmi vous quelqu'un qui était un des premiers abonnés de Prescrire, le docteur Orefice. Un des rares médecins qui, à l'époque, lisait Prescrire. Je peux vous dire, ils n'étaient pas nombreux. Pardon. Et vous. Voilà, ben voilà. Vous n'étiez pas nombreux, honnêtement. Et Prescrire, eux, avaient déjà tiré le sonnet de l'alarme. Mais les médecins ne lisaient pas Prescrire. C'était les emmerdeurs. C'est considéré comme les intégristes de la médecine. Bon. Irène a le déclic. Et c'est là. Et ça va être une quête, un combat de 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, elle va commencer à faire le lien. Elle va demander des renseignements à l'Agence du médicament, qui est le gendarme sanitaire des médicaments. Elle va les emmerder. L'Agence du médicament va collaborer, mais vraiment avec des pincettes, va faire de l'obstruction, parce qu'elle a un peu bousculé tout ce beau monde. Elle va commencer à faire une étude dans son hôpital. Elle va faire une étude ensuite sur la région. Elle va être aidée par un médecin de la CNAM, qui va travailler en cachette, en clandestinité, pour avoir des données nationales. Et tout ça va aboutir, à un moment donné, à ce que le scandale explose. Elle va sortir un livre qui va être interdit par les laboratoires Servier, par décision de justice. Heureusement, elle aura persuadé de l'Agence du médicament. On raconte dans la BD les allers-retours. Elle a passé 8 mois de cauchemar et d'enfer pour les convaincre qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ça, clairement. Et si vous voulez, quand le scandale éclate, le médicament est retiré du marché, on pourrait se dire c'est terminé, elle a joué son rôle. Et bien, c'est là où le lanceur d'alerte va prendre toute sa valeur. C'est que n'importe qui aurait dit, ma mission est terminée, j'ai autre chose à faire, j'ai une vie de famille, elle a des enfants et tout. Mais elle va se rendre compte d'une chose, c'est que au pays, ils ont interdit le médicament, l'État a interdit le médicament, et so what, les victimes, ils ont qu'à se débrouiller, il y a un fonds d'indemnisation, vous voulez porter l'affaire en justice, c'est votre problème. Et là, elle va littéralement péter un câble. N'oublie pas que cette femme est pneumologue, c'est quelqu'un de très rationnel, mais elle dit, c'est injuste. Je ne vois pas pourquoi on pense qu'il y a des milliers de morts, il y a des dizaines de milliers de victimes, pourquoi la communauté médicale ne se bouge pas. Et ça va être là, le véritable combat, le deuxième combat de lanceuse d'alerte, c'est-à-dire qu'elle va jamais lâcher l'affaire. Elle va être au plus près pour dire c'est un scandale, et c'est grâce à elle s'il y aura eu un procès au pénal. C'est-à-dire qu'un procès au pénal, ça veut dire qu'on va demander des comptes et il peut y avoir de la prison à la clé. Quand le médicament est interdit, personne ne voulait un procès au pénal, ni le laboratoire. Les victimes, on pouvait transiger à l'amiable, mais personne n'avait intérêt à ce que ça passe en justice. Eh bien, elle s'est battue. Elle a dit, il y a des gens qui doivent payer, il y a des morts, il y a des blessés. C'est un crime. Pour elle, c'est un crime. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'elle n'exagère pas un peu? Après tout, ce ne sont que des histoires d'effets indésirables de médicaments. Un médicament, n'importe quel médicament, il y a une balance bénéfice-risque. Vous avez des... Soit vous êtes contre les médicaments, vous dites contre Big Pharma, mais si vous êtes un peu pondéré, vous vous dites, chaque médicament, savoir, voilà, les bénéfices sont là, les risques sont là. Sauf que là, les bénéfices, ils étaient quasiment nuls. Pour preuve, ça a été remboursé par la Sécurité sociale, on savait qu'il n'y avait pas trop d'effets. En revanche, les effets secondaires étaient bien présents. Et tout le discours d'Irène a été de dire, non, ce n'est pas qu'un simple effet d'affaire de médicament. Servi a eu des warnings, elle a trouvé des rapports internes qui disaient, attention, le médicament est dangereux. Elle a tout décortiqué en disant, on a continué de mettre sur le marché un médicament qui était dangereux en le sachant pertinemment. Et pour elle, c'est ça la ligne rouge. La différence d'autres laboratoires pharmaceutiques, bon, qui à un moment donné vont transiger, vont arrêter, eux ont fait obstruction pour garder ces médicaments le plus longtemps possible sur le marché. Donc, c'est comme si vous êtes un constructeur automobile, vous vendez à vos clients une voiture, ou un modèle sur 1000, un modèle sur 10 000, il n'y a pas de frein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous savez, c'est-à-dire, je sais, bon, un sur 10 000 ou un sur 5 000, on vend le modèle, il reste que le conducteur va se cracher, tant pis, c'est la vie. Et là, non, ça passe plus. Et c'est là où Servier l'a très mal joué. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir tenir comme ça. Manque de chance pour eux. Irène a réussi à mobiliser à l'époque le ministère de la Santé de l'époque. Le ministre de la Santé, c'était Xavier Bertrand, qui était le ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, président de la République. Or, problème, Nicolas Sarkozy, à l'époque, quand il était avocat d'affaires, était ami avec Jacques Servier, et c'est lui qui a monté la fondation de Servier dans les Pays-Bas pour garder l'intégrité, pour que le laboratoire n'ait pas de soucis à la mort de Servier. Et Jacques Servier était un grand ami de Nicolas Sarkozy, tout le monde le savait, c'était su. Donc on se retrouve avec un scandale qui va éclater à la figure de la droite, et là il s'est passé une chose, Xavier Bertrand est aux commandes, Sarkozy est au pouvoir, il n'y avait qu'une crainte, c'est d'avoir un sang contaminé bis, c'est-à-dire le même scandale sanitaire qu'il y a eu avec la gauche, avec Laurent Fabius. Il fallait absolument qu'on ne puisse pas dire au gouvernement de l'époque, vous avez tout fait pour stopper ce scandale. Et Xavier Bertrand, contre toute attente, est allé à fond, il a suivi Alain Frachon. On raconte dans la BD, elle raconte des entretiens. L'agence du médicament freinait des cas de fer, disait, moi je connais Xavier Bertrand, j'en ai discuté avec lui. L'agence du médicament freinait des cas de fer, il disait, mais qu'est-ce que vous pensez d'Irène Frachon? On dit, non, mais elle est un peu excitée, elle a un écho démesuré, on s'occupe du truc. Et il ne lui montrait pas tous les documents. Et il a misé sur elle. Voilà. C'était à un moment donné, il aurait pu avoir un moment de bascule. Il y a eu un rapport IGAS qui a entériné tout ça. L'IGAS, c'est un peu la police des polices à l'intérieur du monde médical. Et ensuite, eh bien, on passe au dur. Procès au pénal. Procès au pénal, ça veut dire quoi? Ça veut dire enquête. Enquête, ça veut dire écoute téléphonique. Ça veut dire on épluche les comptes. Ça veut dire on passe devant un juge d'instruction. Là, c'est terminé, on n'est plus entre gens de bonne compagnie, l'agence du médicament, le laboratoire. Ça devient sensible. Et l'État a mobilisé les gens qu'il fallait dans cette enquête. On ne peut rien dire là-dessus, on accuse souvent la justice de partialité, ils ont eu les moyens. Vous avez une unité de, je crois que c'est l'OSCLEPS, qui sont des gendarmes, qui sont spécialisés en santé publique, voilà. Et alors, il y a eu des choses un peu cocasses, par exemple, je vous donne, c'est des choses qui peuvent paraître un peu ahurissantes, ils mettent sur écoute téléphonique le numéro 2 de Servier. Et ils ont mis sur écoute pendant un certain temps. Et à l'époque, il y avait des commissions d'enquête parlementaire, députés, Assemblée nationale et du Sénat. Moi, j'ai été auditionné, je vous dirai pourquoi ensuite. Et ils ont mis sur écoute le numéro 2. Et à un moment donné, ils tombent sur une conversation téléphonique entre le numéro 2 de Servier et le professeur Grisselli, qui est un grand compte, qui raconte à CETA, en fait, qu'il est allé modifier le rapport de la commission d'enquête parlementaire du Sénat à la demande d'une des vice-présidentes. Donc il raconte tout, je me suis arrangé, on va miniser ça, on va dire ça, et vous avez le numéro 2 de Servier qui dit, mais j'en demandais pas autant, formidable, c'est génial et tout. Donc on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y a des intrusions, et on le savait, on avait des suspicions de ce genre de choses, mais ça veut dire que même ce pouvoir est entré dans les instances démocratiques représentatives du peuple. Et ça, il y a un problème. Que ce soit dans le milieu médical, on sait très bien, on connaît les collusions entre le monde de la santé et la laboratoire pharmaceutique, c'est une tarte à la crème. Mais qu'on puisse aller jusqu'au Sénat pour modifier un rapport, là, ça ne va plus du tout. Aux États-Unis, par exemple, vous auriez une affaire comme ça, ça prendrait des proportions monstrueuses. En France, ça a donné lieu à quelques articles, l'affaire a été enterrée, pas plus. Donc on est passé au pénal, vous avez eu 5000 parties civiles, à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait le vérifier. Procès tentaculaire qui a duré un an avec installation de box spéciaux, un peu comme le procès pour le Bataclan et le terrorisme. Et voilà, donc première condamnation, là les victimes ont attendu. Donc la juge de l'époque a dit c'est scandaleux, il y a bien eu ça, ça, ça et ça, vous n'auriez pas dû mettre ce médicament sur le marché, etc. Bon ben voilà, on va vous condamner à une amende et puis pour le patron de le numéro 2 de Servier, à, je crois, 3 ans de prison avec sursis. Enfin, pas de prix, pas de ferme et tout. Et là, ça a été la douche froide pour les victimes. Ils n'ont pas compris. Soit, c'est pas compliqué, soit c'est un crime, il faut juger ça en tant que crime, soit ce n'est pas un crime, et à ce moment-là, la prison avec sursis, ça veut rien dire. La prison avec sursis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, ok, vous avez déconné, recommencez plus, sinon vous allez vraiment en prison. Voilà, c'est ce qu'on fait avec les petits dealers, en gros. En revanche, pour les grandes affaires, non, on donne de la ferme pour les criminels. Alors, quand vous êtes à ce niveau-là, pour Irène, ça a été vraiment, mais vraiment, vraiment la douche froide. Moi, je me souviens, nous, on se connaît depuis une dizaine d'années, et on a eu l'idée de faire cette BD pour raconter l'intégralité de cette histoire. C'est-à-dire que ça parle de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Ça raconte son combat, c'est-à-dire tout son combat, mais dans le détail. On fait les portraits de 5 victimes, parce que c'est monsieur et madame tout le monde qui ont été victimes de ça. C'est vraiment, vous auriez pu être victime de l'examen et du médiator, Et puis, on raconte aussi l'autre affaire oubliée, celle de l'isoméride. Et c'est là où j'interviens, c'est que moi, à l'époque, dans les années, fin des années 90, j'étais journaliste d'investigation santé, j'ai traité l'affaire des isoméride, j'avais révélé que ça avait fait 30 morts à l'époque, j'étais attaqué en diffamation par Servier, procès que j'ai gagné, ils ont attaqué une deuxième fois, mais j'avais mon journal derrière moi, le Parisien. Donc, j'étais pas comme Irène Frachon toute seule. Et j'ai toujours gardé ça en travers de la gorge, parce que le scandale a fait flop. Le médicament a été interdit, et voilà, plus rien, mais c'est normal. Et quand Irène m'a proposé de me dire, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble, on s'est dit, il faut qu'on parle des deux affaires, elles sont liées. Le même laboratoire, les mêmes molécules cousines, la même façon de faire, les mêmes dérives. Et avec ça, bah, l'idée était de faire cette bande dessinée, on raconte ça, et entre-temps, Irène a eu une adaptation film, je ne sais pas si vous l'avez vu, La fille de Brest, qui est juste sa partie de lanceuse d'alerte, mais un moment seulement, mais très, extrêmement pointu, au moment où elle voit les premiers signaux d'alerte, et où elle, ça, on va interdire les médicaments, avec Benoît Magimel, et une actrice danoise qui jouait dans Borgen, et on s'était dit, mais ça c'est juste 20% de l'histoire, il y a 100%. Voilà, j'ai été un peu long, mais ça vous donne un peu les cadres de cette affaire.
Merci Eric. Je pense que ça pose effectivement, pour avoir lu bien le décor, un décor où d'un côté on a une société, Jacques Servier, et un homme avant toute chose qui a construit un empire sur une religion. Paul Vigaret, on montrait ce Servier comme entrer en religion avec des rites d'initiation. Et puis il y a une fabrique de liens aussi de ce laboratoire entre tous les acteurs, hein, aussi bien les experts que les tutelles, que les politiques et que les prescripteurs, bien évidemment. L'autre question intéressante, c'est les rituels suivants, c'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, le défi pour la démocratie, c'est que tous les systèmes, les verrous qui devraient fonctionner, ont sauté, j'allais dire, en tout cas ont été complètement inefficients. Pour ces raisons-là également, chacun a joué sa place, chacun a resté à son endroit en manipulant des figures de rituels comme le secret, comme... le recours à d'autres rituels parallèles. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est la dernière partie aussi sur le rituel de la justice. On voit qu'à tout moment, une société, elle se retranche derrière des experts, derrière des expertises contradictoires. Il y a des grands moments où on voit des avocats qui sont cités, l'avocat de la famille Servier, Nicolas Sarkozy un premier, ou des gens comme Madame Carrère ou Monsieur Feu Olivier Thémine. Donc on ne va pas tirer sur une ambulance, mais ces gens-là... C'est Octave Mirbeau qui disait avec justesse, je vois des drames, je vois des catastrophes, pire, je vois des avocats, s'ils n'ont pas honoré leur profession. Mais ce qui est intéressant aussi dans la deuxième partie, peut-être, c'est ces hiérarchies parallèles, ces rituels parallèles, font que renforcer l'accident premier. Bon, ici, on est quelques-uns à avoir bien connu la maison Servier, c'est pour nous un mouton noir. Hein, c'est le seul laboratoire à avoir été exclu du lab de la chaîne d'industrie pharmaceutique pour l'ensemble de son œuvre. Hein. Moi, étant bambin, on croisait un type de Servier, on disait, tiens, il va habiller le bébé. Parce qu'ils avaient des produits qui étaient médiocres, voire dangereux par la suite. Mais on disait, ils se promenaient d'abord avec d'anciens militaires, avec 30 tonnes de littérature qui prouvaient la noblesse de leurs choses, mais donc, ils habillaient le bébé. Et ensuite, avec beaucoup d'adultés, c'est devenu des visiteuses très convaincues, ce qui laisse rêveur d'ailleurs sur la solidité psychologique de certains médecins qui venaient vendre cette affaire-là. Mais tous les mécanismes étaient en place pour que ça se passe comme ça. D'où ma première question de départ. Est-ce que c'est un accident qui serait nombre à se produire? Ou alors, plutôt, plus largement, n'est-ce pas aussi dans un système de rituel général, tout un système qui peut se reproduire à tout moment parce que les acteurs sont chacun dans leur rôle?
Alors, je n'ai pas forcément la compétence pour répondre à ces questions. Moi, je me cantonne à mon rôle. Je ne suis plus dans le milieu de la santé depuis un bout de temps. Moi, je pensais sincèrement, vous savez, quand... Alors, on va parler juste de service, histoire de rituel, ça c'est important. Quand l'affaire de l'isoméride, c'était fin des années 98, on était sous le gouvernement Kouchner, qui était ministre de la Santé, tout était interdit, il y avait des conseillers, Didier Tabuteau, Duneton, c'était des gens qui avaient bossé, qui avaient mis en place ce système sanitaire à l'époque, qui était plutôt pas mal. On s'était dit, bon, ça va pas recommencer. Et quand il y a eu l'affaire du médiateur, quand Irène Frachon a écrit son bouquin, je l'ai reçu à l'époque, j'étais encore journaliste parisien, je n'étais plus en santé, je m'occupais d'économie, j'ai regardé le bouquin, je dis, c'est pas possible. Premier effet, ils n'ont pas pu faire la même connerie. Le même laboratoire, la même molécule, c'est gros, ça me paraît gros. Donc j'ai été sceptique. Donc, j'ai donné le bouquin au journaliste santé. J'ai gardé ce bouquin parce qu'il m'était dédicacé par Irène, qui m'a dit, votre combat pour les homérides m'a beaucoup aidé, regardez le médiator et tout. Et j'ai fait partie, comme beaucoup de médecins qui ont dit, c'est pas possible, on peut pas avoir la même, c'est pas le même coupable. C'est comme si vous aviez le même gangster qui va braquer la Société Générale, Spaggiari, mettons les égouts de Nice, et qui va refaire le même casse 10 ans plus tard, il va repasser par les égouts pour refracturer le même coffre. Eh bien oui, c'est exactement pareil. Bon. Ça, c'est la première chose. Je m'en suis excusé auprès d'Irène. Deuxième chose, Servier. Voilà. Alors, c'est pas anodin. Jacques Servier est quelqu'un self-made man, alors qui vient d'une famille où le papa a commercialisé de l'huile de foie de morue, qui était petite unité de fabrication de sirop du côté d'Orléans. Il a pris des méthodes de marketing très poussées à l'américaine. Il a créé un empire. C'est quelqu'un, c'est une petite PME dans le Loiret qui est devenue le premier laboratoire indépendant français. Il est venu juste après Rondecoulin qu'à l'époque. Je crois que c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Il est implanté dans une vingtaine de pays. D'un point de vue industriel, c'est une réussite. On ne peut pas dire le contraire. Je fais toujours l'abstraction entre, vous savez, la fête qu'on peut avoir et examiner les faits froidement. C'est une réussite industrielle. Mais il avait une particularité. Il était persuadé qu'il avait une mission sur Terre, c'est de propager l'idéologie du médicament. Les médicaments pouvaient sauver des vies. C'était la plus grande invention après la découverte du feu. C'est ce qu'il disait. Voilà. C'était pas rien. Donc, il était investi d'une mission. C'était quelqu'un politiquement qui était très à droite, très conservateur, et qui, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a eu peur, et il a embauché une cinquantaine de consultants des renseignements de la DST et du renseignement militaire. L'idée était la suivante, il ne voulait pas que son laboratoire soit infiltré par de faux gauchistes, pas, on m'avait dit, ni homo, ni coco, donc pas d'homosexuel, pas de coco, pas de socialo, et pas de franc-mac. Voilà. Les choses étaient très claires. Donc, ces gens-là avaient comme mission, à chaque embauche, de regarder le pédigré des gens et de faire des enquêtes parallèles. Et ils allaient voir trois personnes de l'entourage. Ça va apporter quelque chose. Alors, vous allez dire, j'exagère un peu. Absolument pas. Dans la BD, j'ai rencontré l'un des patrons de ce service. Le colonel Blandin, ex-colonel enseignement militaire, qui a tout déballé, qui nous a apporté les fiches. Les fiches des gens qui étaient suspects. Et donc, on les balance. Et vous avez des choses qui sont ahurissantes. Ces fiches datent entre 80, ça s'est arrêté vers les années 90. Un tel, alors, bon médecin, mais parent syndicaliste. Problème. À dégager. Un tel, important pour nous représenter en Suisse, mais est marié à un noir qui a des allures de marabout. On ne peut pas, dans les soirées médicales, nous faire représenter par ces gens-là. Je vous passe les détails sur des... À côté de ça, par exemple, en Russie, alors là, ça va beaucoup plus loin, et c'est le type qui a rédigé ses fiches, hein, dont on publie les fiches. On est dans le milieu des années 90. Alors, un tel veut être recruté, ok. Il est juif. Né de parents israélites. Fait partie d'une communauté israélite. Goût de l'argent prononcé. Tous les stéréotypes antisémites. Vous lisez, nous on les a reproduits sur deux pages, vous aviez tous les stéréotypes. Cette fiche aurait pu être rédigée dans les années 40, sous Pétain. Clairement. Quand on a balancé ça, et le canard enchaîné a fait ça. On s'est arrangé pour faire fuiter ça au canard enchaîné. Ils ont fait une demi-page là-dessus, deux semaines avant la sortie de la BD. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des fiches comme ça, c'est très bien fait. Cette histoire-là, quand même, c'est allé tellement loin, ça a été le plus gros fichage du corps médical de toute l'histoire de la médecine. Et la CNIL s'en est mêlée. La CNIL a récupéré tous les fichiers et a fait des sondages. Et ils ont transmis ça au parquet, en disant, là, il y a un fichage sur des critères ethniques, sur des critères sexuels, et ça a été, le déclic, ça a été parce qu'une, il y avait un commentaire raciste et un commentaire homophobe, voilà, en disant, là, c'est inacceptable. Ça a été classé. L'affaire a été classée sans suite. Parallèlement à ça, ces histoires de barbouzes et tout, qui n'avaient de compte à rendre qu'à Jacques Servier, il y avait un fichage aussi des gens importants. Ça s'appelait la base Olympia. C'était une base qui était uniquement consultable par trois personnes. Et on fichait les médecins, les conseillers ministériels. Et par exemple, on parle de Didier Tabuteau, qui était un des conseillers proches de Kouchner, qui est un grand bonhomme du monde de la santé, qui était le patron de l'agence du médicament. Eh bien, Il est tout décortiqué, ses connexions dans le Parti Socialiste, avec qui il est ami, avec qui il est ennemi et tout. Et au fil des ans, il a créé un club qui s'appelait Hippocrate, Servier, dans son hôtel particulier, et il recevait tout le monde de la politique et du médicament qui venait. Tous les ministres de la Santé y sont passés, les journalistes, il les invitait. Il n'y avait rien à proposer, mais on était dans l'entre-soi, voilà, et ses dîners étaient réputés, étaient excellents, il y avait un chef. Et lui, il restait dans un coin, et de temps en temps, il donnait audience à certaines personnes. Voilà, alors ce qui fait que, bon, vous avez des choses, je ne vais pas tout vous raconter, Nicolas Sarkozy lui a attribué la Grand Croix de la Légion d'honneur. Grand Croix, c'est la décoration ultime en France, c'est les grands résistants, c'est Simone de Veil, c'est des gens comme ça, en disant que c'était un être exceptionnel. Roselyne Bachelot était à la remise des décorations. Entendons-nous bien, quand il y a eu la remise de cette décoration, on n'avait pas encore eu ce scandale qui avait explosé. Il y avait déjà eu l'isomérite quand même. Il y avait déjà eu cette réputation sulfureuse. Voilà, donc vous êtes au croisement des médicaments, de la politique et tout ça. Alors, Servier est un darwiniste convaincu, c'est un type de droite très affirmé, mais il savait faire abstraction de ses propres convictions. Et quand les gouvernements ont changé, Jospin, ben, ce qu'il a fait, il a embauché Henri Nallet. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas donner son nom, qui était quelqu'un au Parti Socialiste, qui a refusé. Il a eu des offres de service de Servier. C'est quelqu'un, mais vraiment de connu. Il a dit, mais il n'est pas question que je sois embauché dans ce laboratoire de facho. Et quand il a su qu'Henri Nallet avait été accepté, je crois qu'il y a une engueulade, mais féroce. En disant, mais regarde où tu mets les pieds, regarde à qui tu vas faire. Et Henri Nallet a touché plus d'1 million d'euros quand même pour ses prestations, parce qu'il savait qu'il avait de l'entregent à la milieu de gauche. Il a fait ça aussi, il a embauché deux maçons. Moi, je ne vais pas donner de nom, mais je me suis retrouvé à voir le programme d'un colloque d'une grande obédience où un maçon de haut vol, député, a fait une conférence sur l'éthique. Alors que je connaissais particulièrement le pédigré du bonhomme et les montants qui avaient été acceptés, qui étaient passés par Servier. Donc, si vous voulez, c'est ouvert aux profanes, hein, je n'ai pas voulu y aller, je l'ai dit pourquoi je ne voulais pas y aller, je ne vais pas écouter ce genre de conneries. Si vous voulez, ça, c'était cette partie qui était malsaine, et c'était lié à Servier. Alors, c'est un vrai polar, mais vous le verrez, je vais aller plus loin. Je vais m'arrêter là, juste une anecdote pour dire qu'on est dans un vrai polar. On était aux États-Unis dans les années 90, Servier avait dealé avec American Opronox le fait de balancer l'isomérine sur toutes les États-Unis. Le deal du siècle, à coup de milliards. La FDA a accepté et un épidémiologiste, le professeur Abenaïm, Lucien Abenaïm, voyant qu'il y avait des problèmes, tire un personnel vers l'art. Servier lui confie une étude pour montrer qu'il n'y a pas de souci avec son produit. Abenaïm fait son étude, une étude comme il faut, et là, l'étude montre qu'il y a des problèmes. Il va se faire pilonner. À l'époque, il était à Montréal, au Jewish Hospital, et il commence à avoir des intimidations. Il va retrouver des couronnes mortuaires devant sa porte. Son ordinateur est cambriolé. Le FBI intervient. Il est sous protection, il prend des gardes du corps. Il reçoit des virements bancaires d'une société française pour voir s'il n'était pas pour mettre de l'argent douteux et pour dénoncer aux autorités américaines. Tout ça, il l'a dit devant les juges. Hein. Il a tout expliqué. Ce que je vous dis là, c'est passé en justice. Et c'est pour ça qu'avec Servier, c'est différent des autres laboratoires. On sait qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, moi, je ne dis pas sur les nouveaux dirigeants, je parle de la personnalité du fondateur Servier. Il y a un nouveau dirigeant, il y a une nouvelle équipe. C'est toujours aussi tendu avec les victimes, mais on peut supposer que toutes ces méthodes de barbouze sont derrière nous. On peut supposer. Et Irène en a particulièrement. Irène a eu une campagne contre elle. Et elle m'a dit ce qui était le plus dur, c'était dans le monde médical. C'est-à-dire, autant les journalistes ont suivi, et que ce soit de droite ou de gauche, je crois qu'une affaire comme ça, vous avez autant l'Humanité que le Figaro, ce qui n'est pas le cas dans les grandes affaires politiques. Hein. Là, c'était tout le monde. Le milieu, les journaux médicaux, à part prescrire, c'était « on a aux abonnés absents ». Le patron du quotidien du médecin, Gérard Kouchner, le frère de Bernard Kouchner, a déclaré devant la commission d'enquête parlementaire, on lui demande pourquoi vous ne traitez pas l'affaire du médiateur, alerter les médecins. C'est à l'époque que le scandale avait éclaté. Il dit, mais on n'est pas un journal de chiens écrasés. On ne donne pas d'enfants divers. Donc vous voyez, et elle me dit, après, le grand truc, c'était de la faire passer pour une excitée, une sorte de Jeanne d'Arc du médicament. Donc, il y avait des commentaires, on tombe ensuite après dans les commentaires, dans le machisme pur, c'est-à-dire, elle a ses humeurs, elle dit j'en ai entendu, mais vraiment, des trucs que les femmes peuvent entendre, ce qu'on ne dit jamais à un homme, elle dit ça, je ne vais pas supporter, ce côté macho, et ceux qui connaissent un peu le milieu médical, on sait qu'à un moment donné, ça pouvait l'être, elle dit ça, c'était une excellente, mais elle a tenu bon, je lui dis quelle est ta force, elle me dit, je suis protestante, voilà. Elle dit, moi c'est ma colonne vertébrale, je suis d'une famille religieuse, elle n'est pas du tout intégriste ou quoi que ce soit, elle est protestante, elle est juste pratiquante, elle dit ça me tient, voilà, c'est... Et quand vous voyez la plupart des lanceurs d'alerte, souvent vous avez quelque chose qui les pousse, qui les tienne. Et une petite différence maintenant, à l'heure où tout le monde se voit lanceur d'alerte, parce que ça devient la mode, ça la fait bondir aussi, parce que les lanceurs d'alerte, moi à un moment donné on m'a qualifié de lanceur d'alerte parce que j'avais travaillé sur ces sujets, donc je parle sur lanceur d'alerte. J'avais un journal dernièrement qui m'aidait, qui me payait pour ça, et j'avais un avocat pour me soutenir, donc c'est pas un souci. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est tout seul face à son écosystème professionnel, qui tout d'un coup, ceux qui étaient vos amis deviennent vos ennemis. C'est ça un véritable lanceur d'alerte. C'est pas quelqu'un qui va balancer des choses sur Internet. Et là, elle était bien seule. Heureusement, au fur et à mesure, il y a des gens qui l'ont aidée et qui ont fini. Il y a une chaîne comme ça qui a fini par arriver à ce que ce scandale soit mis à jour.
On a le bonheur d'avoir du temps pour les questions. Il suffit de lever la main et les questions vous seront accordées.
J'en ai une qui est plutôt une question que je me fais moi-même, en fait, par rapport à tout ce qu'on avait exposé, et par les OMS, d'organismes, de mauvais fonctionnements. Moi, je me pose aujourd'hui une question qui est comment puis-je être défendu par des organismes locaux, étatiques, européens, OMS, vous avez cité, quand on regarde les fonds, qui sont les donateurs, qui sont les acteurs, j'ai envie de dire, derrière ces gens-là, qui des fois, pour certains, pas pour tout, je ne veux pas faire plus la généralité, mais pour certains, en tout cas, me font plutôt penser à des façades. Et je me dis, c'est finalement eux qui sont décisionnaires sur les grandes décisions qui concernent tous. Et je me pose vraiment des questions sur la réelle neutralité, de ces organismes.
Alors, votre question, elle est fondamentale. Et je vais vous dire particulièrement depuis le Covid. Irène, sur son combat, elle était sans concession. Mais elle n'est pas non plus anti-labo pharmaceutique, elle n'est pas anti-système médical, pas du tout. Hein. C'est pas bon. En revanche, son combat a été récupéré. Et à un moment donné, sur la vaccination pour le Covid, elle a vu tout le mouvement anti-vax se saisir en disant « mais le vaccination anti-Covid, c'est comme le Mediator ». Ça a fait bondir. Elle était obligée de faire donner une interview pour dire « je ne suis pas contre la vaccination, moi je me fais vacciner, s'il y a des problèmes, eh ben, il faut que ce soit investigué. Mais ne récupérez pas mon combat sur Mediator pour ça ». Ça c'est une chose. Donc, ça montre aussi qu'il y a une défiance de grandissante de la population envers les autorités de santé. Mais quand on voit l'affaire du Mediator, on s'aperçoit que tous les gendarmes n'ont pas assumé leur rôle. Bas, en haut de l'échelle. Pourquoi ? C'est moi. Pourquoi ? Pour des histoires à la fois de collusion, qu'on voyait que l'agence du médicament, en fait, des gens qui sont chargés de contrôler l'efficacité et la nocivité des médicaments, sont payés aussi, une partie des experts sont payés par les labos pharmaceutiques. Vous avez des fonctionnaires qui sont payés par l'État, mais les experts, les experts en médicaments, eux, travaillent avec les labos. C'est pour ça qu'ils déclarent des déclarations d'intérêt. Et ça, c'était sous Kouchner. C'était sous Kouchner qu'on a commencé, je parlais de Tabuteau, qui a dit, bon, il va falloir déclarer les conflits d'intérêts. Par exemple, je suis payé par Servier pour faire des études, je ne vais pas moi-même expertiser la nocivité de ce médicament. C'est grotesque, on pourrait dire.
C'est vrai qu'ils vont pas vous employer, ça.
Pardon ?
Servier ne va pas vous employer.
Non. Mais vous savez, il n'y a pas que Servier, c'est là où vous dire, tous les labos humains, parfois aussi, que le font. Donc, il y a eu un peu de ménage qui a été fait, très bien. Mais quand même, c'est pas si clean que ça. Alors, vous voyez que là, ces gens-là n'ont pas fait le boulot, pour certains parce qu'ils étaient avec Servier. Les fonctionnaires de l'agence du médicament a été condamnée en première instance au pénal, n'a pas fait le boulot. Et là, vous avez trois raisons. Et je crois qu'il y en a une, c'est la pire. Vous avez une première raison, c'est qu'ils sont débordés. C'est-à-dire que c'est une structure étatique qui n'a pas les moyens de faire un véritable boulot. Vous avez des centaines de médicaments, il faut les dossiers, on se rend pas compte, les dossiers, ce sont des kilomètres de dossiers. Il n'y a pas les gens suffisants. Ça, il faut leur reconnaître ça. Donc, ben vous réagissez au coup par coup. Il y a une alerte sanitaire, vous y allez, vous avez un système de pharmacovigilance qui va vous alerter. Deux, vous avez l'incompétence. Le dossier médiateur, au niveau de l'agence du médicament, est passé entre les mains de gens incompétents. Médecins, mais incompétents. Et bien, c'est arrivé. Voilà. Trois, c'est passé entre les mains de gens lâches. Quand je vous dis lâche, ça veut dire que c'est des gens qui se sont dit, oula, attention, on va mettre le prix, il va y avoir Servier laboratoire particulier, on va avoir des emmerdements. Tout ça, ça pue, c'est la patate chaude, voilà. Et on le sait, et quand cette agence a été condamnée, c'est pas pour des faits de corruption, aucun fonctionnaire de cette agence n'a touché un seul centime de Servier, à la différence des experts, ces fameux experts, aucun. Donc c'est là où les conspirationnistes ont à côté de la plaque. Le mal endémique, c'est ce mélange d'absence de moyens, d'incompétence et de lâcheté. Voilà. Et heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Bien évidemment, peut-être que le médiateur serait passé entre les mains de quelqu'un qui était compétent et qui était un peu plus courageux, on n'aurait pas eu ce scandale. Le hasard a fait que ça soit tombé, hélas pour les victimes, et hélas pour Servier avec ce triptyque.
Autre question ?
Je peux ?
Tu dois.
Je vois de l'autre côté. Dans le fond, au-delà de la question de Servier et du médiateur, de ce scandale, ce qui sous-tend ta narration et ce qui a probablement dans le livre que je n'ai pas encore lu, je m'en précise de le lire, c'est la réappropriation de la citoyenneté, parce qu'on voit à quel point chacun peut être à un moment ou à un autre dans sa vie, tu l'as évoqué en parlant de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte avec beaucoup de guillemets de prudence, qu'est-ce qui aujourd'hui, quels sont les garde-fous qui ont été mis en place, si toutefois il y en a, je ne sais pas, je te pose la question, pour éviter que l'on soit à nouveau confronté dans une situation similaire. Merci.
J'aimerais pouvoir répondre, et là encore une fois, je n'en ai pas la compétence. Je ne suis plus dans le milieu de santé, je ne suis plus des autres dossiers, je sais qu'effectivement, on a eu, c'est un petit peu quand même, l'agence du médicament a changé, ils disent à chaque fois qu'on a tenu compte des leçons du médiateur, comme avant on a tenu compte des leçons de l'isobéryl. Moi, Irène me dit que, en fait, au-delà de ces garde-fous étatiques, le problème vient de la communication et de l'information avec les médecins, c'est-à-dire à la base. C'est-à-dire, en gros, avant que ça devienne, qu'il y ait des warnings, des scandales, que le scandale s'enquisse dans ces niveaux-là, dans ces agences gouvernementales, pourquoi les médicaments, pourquoi les médecins n'ont pas une information plus complète sur les effets indésirables des médicaments ? On a décidé depuis des décennies de dire c'est à l'industrie pharmaceutique de communiquer avec les médecins. Voilà. Ça a été l'erreur de base en disant on n'a pas communiqué. C'est pour ça que Prescrire a été créé en disant on ne peut pas confier ça, la communication sur les médicaments, seulement à l'industrie pharmaceutique. C'est pas possible. C'est jugé parti. Mais globalement, le médecin, quand il est dans son cabinet, qui en plus voit passer les patients en longueur de journée, qui en plus lui demande, et c'est important, lui demande même d'être prescrit, de leur donner des médicaments. Dans les générés des médiateurs, n'oubliez pas que beaucoup de patients demandent au médecin. C'est pas le médecin qui a dit je vais vous prescrire le médiateur, c'est des patients qui voulaient perdre quelques kilos. Donc si on revient à ce niveau d'information des médecins, ce qu'il faudrait déjà, c'est qu'on ait une plus grande communication, qui est un organisme de communication avec les médecins, qu'on arrête de donner ça aux médicaments. Pourquoi ? Parce que la presse médicale n'est pas encore mature. Je vous donne juste un exemple sur l'état de la presse médicale. Vous avez, au moment du procès, la veille de comparution d'Irène Frachon au procès en appel, où elle devait témoigner à nouveau. Elle passait 3 jours à repotasser, parce que c'était 8 heures d'audition. Vous vous retrouvez devant un tribunal, 8 heures, vous avez des juges, vous avez une partie à votre droite des avocats qui sont de votre côté et une partie qui veulent votre peau, des avocats de Servier, qui vont vous, mais à la virgule près, si vous faites une erreur, et comme c'est un dossier complexe, je peux vous dire, il ne faut pas faire d'erreur. Bon. Et la veille, un journal médical pharmaceutique fait sa une, avec son visage en énorme, taisez-vous, Madame Frachon. C'est un des journaux de l'industrie pharmaceutique. C'est balancé sur en version numérique. C'est lu partout, grosse partie de l'industrie pharmaceutique et des autres et des agences. Moi, elle m'a appelé quand il y a eu ça. C'était la veille. Elle voit tomber ça. Il était 11h du soir. Elle devait se lever le matin à 6h. Parce qu'en plus, elle faisait aller-retour entre Brest et Paris. Et elle dit, mais c'est pas possible. Ils ont osé. C'est en fait le rédacteur en chef. Alors déjà, c'est même pas docteur Frachon, c'est Madame Frachon. Donc, on voit déjà le côté misogyne en disant, voilà, vous n'êtes même pas docteur. Et taisez-vous. Ça s'est jamais vu. Et ben, ça veut dire que non, ils n'ont pas encore évolué. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être, pour être citoyen, pour qu'il y ait des réflexes citoyens, peut-être qu'à un moment donné, un des garde-fous à la base, c'est de créer une communication digne de ce nom vers les médecins, qui ne soit pas anti-médicaments, parce que le médicament est un progrès pour l'humanité, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui ne soit pas biaisé par les conflits d'intérêts. Deuxième chose, quand vous dites sur comment on peut accélérer ce processus citoyen, j'ai quand même un doute, dans la mesure où c'est un domaine extrêmement technique, extrêmement pointu. J'ai fait des études de biologie, mais je ne suis pas médecin, donc je ne m'estime pas compétent pour donner mon avis sur un médicament qui est mis sur le marché. Donc même si on faisait une convention citoyenne pour dire quel est votre avis sur tel ou tel médicament, ça n'aurait aucun intérêt. Peut-être ce serait de créer une entité de sachants, parce que moi je crois beaucoup à l'expertise, je ne suis pas du tout égalitariste, on est tous à différents niveaux experts en quelque chose ou pas. Moi, je délègue ma confiance à quelqu'un en qui j'ai confiance, dont c'est le métier. Même matière qu'on a des militaires qui vont aller se battre pour nous, c'est son métier, bah, je considère que c'est peut-être créer un corps, une sorte de corps d'élite de gens qui seraient bien payés, qui seraient des sachants, qui ne dépendraient pas des labos pharmaceutiques, dont ce serait le métier, et dont le citoyen délèguerait la confiance. Mais c'est qu'une piste et ça va plus loin. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à votre question, parce que sur l'évolution du milieu, je ne suis pas compétent pour dire qu'il soit là. Je préfère m'abstenir.
Jacques.
Oui, Eric, merci infiniment de la présentation que tu as faite de ce dossier extrêmement complexe, extrêmement difficile. Je voulais faire quelques observations. La première, c'est que Myriam Frachon a justement eu la chance d'être une femme et de ne pas être sensible au côté pourvêtu des visiteuses médicales de chez Servier, ce qui a levé un obstacle majeur, parce que la remarque était très juste. Je ne citerai pas un visiteur médical que j'ai connu dans ma tendre enfance médicale et qui était toujours escorté d'une bande de jeunes femmes les plus violentes les unes que les autres. Je ne voudrais pas dire suivre mon regard, mais bon, si vous voulez bien sûr venir. Bon.
Il n'y en a pas ici.
Il n'y en a pas ici. Donc la deuxième observation, c'est que tu parlais des hommes politiques qui sont intervenus dans les dossiers, notamment au niveau des commissions parlementaires, servis à exercer, comme tous les chefs d'entreprise, un chantage à l'emploi. Vous vous rendez compte, le nombre d'emplois que nous avons, 5000 emplois en France, 800 par-ci, 900 par-là, etc., etc. C'était le chantage à l'emploi, les hommes politiques intervenaient sur cette... Surtout le fait d'avoir 2000 morts, comme ça s'est passé dans l'affaire du Mediator, c'est quand même étendu sur un certain nombre d'années, et ça n'a rien à voir avec un hôtel qui flambe, avec 2000 personnes à l'intérieur, et ça n'a pas du tout le même impact sur la population. Mais le point fondamental sur lequel je veux intervenir, je parlais de communication avec les médecins, ce qu'il faut que tout le monde sache, c'est que la France, d'une manière générale, a sacrifié la formation post-universitaire des médecins et l'a confiée à l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une formation post-universitaire, alors c'est en train... Tout une mouvement de révélation, mais je crois que les formations post-universitaires, c'était financé par l'industrie pharmaceutique. Et il y avait un truc à Épinal qui était très rigolo, c'était les cardiologues, et le niveau de corruption médicale était lié à l'équivalent cardiologue chine. C'est-à-dire qu'il y avait eu un voyage de cardiologues en Chine, par un grand laboratoire que je ne nommerai pas, et tous les cardiologues étaient revenus avec quasiment les bulles de prescription toutes faites. Alors, tous n'ont pas entraîné le même problème que le médiateur, mais le fond du problème, il est quand même le suivant, que ce soit la sécurité sociale dont la carte qui est directement responsable de la carence du nombre de médecins maintenant en France, l'abandon de la formation universitaire à l'industrie pharmaceutique, je veux dire qu'à un moment ou une chose, il faut que les choses s'arrêtent, parce que la démocratie, elle passe quand même par la mise en place des systèmes qui permettent d'assurer les fonctions régaliennes de l'État, et entre autres, l'éducation et la santé. Et là, c'est une double catastrophe française de confirmer tout ça à l'industrie pharmaceutique, dont je reconnais par ailleurs les immenses qualités en recherche et développement. Donc, je pense que tu as fait une œuvre extrêmement utile dans ce domaine très particulier, et je voudrais bien que tu annonces le prix que vous allez recevoir.
Moi, je n'ai pas le droit, je crois. Je n'ai pas le droit.
C'est pas très imaginable. En fait,
c'est aussi un rituel pour nous.
C'est ça.
Non. Merci pour ce que vous avez fait.
Dans la... Surtout Irène, hein, moi je. Petit niveau. Alors après, juste pour je répondre à vos questions, ce qui a aussi vraiment changé la donne, c'est que le lanceur d'alerte, en l'occurrence là, lanceuse d'alerte, était pneumologue. C'est quelqu'un qui avait du poids. Ça aurait été. Mais même un infirmier, une infirmière, une aide-soignante, ça n'aurait jamais marché. Parce qu'elle était, c'était une sachante. Et ça, c'est ce qui change la donne par rapport à d'autres scandales médicaux. Moi, j'ai traité d'autres scandales médicaux. On n'a jamais eu ce cas de figure de médecin, en plus spécialiste, qui porte l'affaire. Et pour répondre à ta question sur la formation post-universitaire, mais ça, c'est, et là, je pourrais dire, le citoyen, il peut pas avoir l'argument d'autorité. Toi, tu as l'argument d'autorité. Tu es médecin. Moi, n'étant pas simple citoyen, je n'ai pas ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Je pourrais faire des tribunes et c'est tout ça, ça n'aurait qu'un point. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, si les gens, à un certain niveau, ne se mouillent pas, on peut rester comme ça en cercle fermé. Pardon.
On a le temps pour deux autres questions. Peut-être François d'abord, et Aurélie ensuite.
Tout à l'heure, vous avez fait référence à l'industrie automobile en disant s'il y a un frein sur 1000, un frein sur 1 million. Qui ne marche pas sur les voitures, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est un peu la même question, c'est le principe de précaution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut accepter comme niveau d'accident dans ce genre de choses ? Bon, j'ai vécu personnellement, puisque je suis allergique, mais c'est une allergie qui peut être mortelle à un médicament dont on a la publicité partout. Le Voltaren. Je comprends qu'on continue à faire de la publicité. Il y a quelques cas tordus comme moi, bon, qui peuvent en crever. Donc, qu'est-ce que vous pensez du principe de précaution ?
Alors, le principe de précaution, normalement, il est inscrit depuis belle lurette. Hein. Et quand vous voyez la mission de l'Agence du médicament, enfin, maintenant, ça s'appelle la MSM, ce gendarme du médicament, en gros, c'est quoi ? C'est que dès qu'un médecin signale un effet indésirable, par exemple, vous avec le Voltaren, le médecin est tenu de l'envoyer au système de pharmacovigilance, qui ensuite va le traiter, qui ensuite va l'envoyer. Bon, ça, c'est la théorie. On ne parle pas de la pratique. Je vous vois. Ça, c'est la théorie. À partir du moment où vous avez un signal d'alerte, par exemple sur le Mediator, vous aviez eu à Marseille, le docteur, je me souviens, qui s'appelait Chiche, a eu un cas d'atteinte de valvulaire cardiaque. Il a fait passer au système de pharmacovigilance. Deux jours plus tard, il s'est retrouvé avec un coup de fil de cervier, ce qui n'est pas normal. Normalement, le médecin aurait dû être protégé. Et trois jours plus tard, il a eu un coup de fil d'un de ses confrères du système qui était médecin, grand professeur à la Timone, et qui lui a dit « ferme ta gueule ». Il a témoigné, hein. Son témoignage était dans ce moment. Donc, tout ça pour dire que vous avez des signaux, ce qu'on appelle des signaux faibles au début, le médecin est censé reporter. À partir du moment où vous commencez à avoir un nombre significatif, vous avez des commissions de pharmacovigilance qui se réunissent et qui vont confier à une unité de pharmacovigilance décentralisée, ça peut être Besançon, Toulouse, peu importe, de dire voilà, investiguez sur ce domaine, collationnez tout ce que vous avez. Le problème, c'est qu'à la base, quelque chose de pourri, c'est qu'on sait très bien que les effets secondaires ne sont rapportés que dans 9% des cas. 9% des cas. C'est pas moi qui le dis. C'est le professeur Bernard Bégaud, qui est l'un des plus grands pharmaco-épidémiologiques, qui a écrit un bouquin là-dessus. C'est Monsieur, effet indésirable. Il dit que le médecin ne rapporte pas les effets indésirables. Voilà, c'est comme ça. Alors ça augmente un peu, peut-être, à l'immédiateur. Parce que le problème est le suivant, vous pouvez faire tous les cas de figure de théorie en disant, je ne sais pas, à partir de 1000, un patient sur 1000, on arrête, un patient sur 10 000. Mais si déjà, vous n'avez pas une ampleur, et c'est ce qui s'est passé avec le médiator, quand Irène trouve son premier cas de médiator, il y en avait déjà plein qui existaient, des victimes, il y avait déjà eu plein de morts, et tous, personne n'avait rapporté ça. Donc j'en reviens au médecin de rapporter ça. Et après, je pense, alors ça c'est pur, c'est mon avis, l'industrie pharmaceutique a toujours tenu un discours infantilisant aux gens pendant des décennies en niant systématiquement les effets secondaires. Leur seul garde-fou, c'était de dire, regardez dans le dictionnaire Vidal, on vous met, vous regardez quand, dans les posologies. Vous savez, quand vous ouvrez votre boîte de médicaments, vous regardez votre notice, vous pensez prendre, je sais pas, du Nurofen, et vous vous rendez compte, ça peut provoquer ça, 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 ça et ça. Comme ça, ils sont bordés juridiquement, c'est un problème. Je crois que ça, il faut aussi éduquer les patients. C'est pas seulement les médecins qu'il faut éduquer, c'est les patients en disant on gobe pas des médicaments comme ça. Mais ça, c'est facile de le dire à mon niveau. Certains ont essayé de le faire. Ça fait chou blanc. Pourquoi? Parce que le système de santé, quand vous remboursez, allons-y, on rembourse même des médicaments qui n'avaient pas d'effet majeur. Et les gens ont l'impression, voilà, vous avez il y a des médecins ici, on connaît très bien des médecins et des patients qui vont vous dire, si vous prescrivez pas les médicaments, je suis quoi? Je suis votre confrère. C'est une réalité. Donc voilà, donc pour vous dire, je serais tentant de dire les cadres, on les a, simplement, il nous manque peut-être des verrous peut-être plus bas.
Aurélien, ce sera la dernière question, est-ce qu'on dépasse
Oui, je vais me dépêcher. Je te remercie beaucoup, Eric, pour l'exposé. Et je voudrais le transposer au milieu du Medical Device. J'ai le département anticorruption pour le numéro 2 mondial du pacemaker. Et on n'a pas toujours les articles. Anticorruption, notamment par rapport aux relations professionnelles de santé. Ce que tu viens de dire, très intéressant, c'est qu'il y a un jeu très dangereux entre les key opinion leaders et certaines entreprises qui, pour avoir besoin qu'on parle de leurs produits, consciencieusement la corruption avec les key opinion leaders. Il y a un jeu très dangereux avec les professeurs de santé chirurgiens, notamment sur le fait qu'au niveau des garde-fous, il y a des régulations qui sont en place. La pharmacie s'est régulée pendant certaines années en termes de compliance. Mais pour revenir à ta remarque aussi, c'est que de la façade, en fait, parce qu'il faut bien prendre conscience que c'est un business. Et ce que tu disais là, c'était très, très juste. Si on n'invite pas la femme de tel chirurgien à tel séminaire, il va aller voir le concurrent et il va parler du produit du concurrent. On arrive vraiment ça à la base. C'est un business pour en avoir conscience.
Ensuite, tu parles des pacemakers. Ah, bon, tu es fini ou
non? Oui, j'ai terminé.
Un moment sur les pacemakers.
Voilà. En fait, si Marcas existe, c'est grâce aux pacemakers. Certains sont peut-être au courant. À l'époque, j'avais traité un scandale, c'est les sondes à Q fixe. En fait, on vous mettait un pacemaker et vous avez ce qu'on appelle une sonde qui va conduire avec une électrode qui va conduire le courant électrique dans le cœur, qui va donner donc. Et vous aviez des sondes qui s'appelaient sondes à Q fixe qui étaient défectueuses. Bon. X sur des milliers, en fait, ce qui se passait, la sonde se rompait et vous perforez le cœur. Enfin, vous perforez, j'exagère, mais vous transpercez le cœur. Gros problème. Donc, ils se retrouvaient avec des gens qui étaient avec cette pathologie, donc c'était cauchemardesque, et plutôt des personnes âgées. Et de l'autre côté, pouvez-vous dire, vous pouviez enlever le pacemaker, mais chez les personnes âgées, il y a un risque d'y rester sur la table d'opération. Donc, vous viviez avec cette épée de Damoclès en forme de pacemaker. Alors, moi, j'ai traité ce scandale qui a fait flop. Flop total. Et des années plus tard, quand Fleuve Noir a lancé une collection qui s'appelait Polar Santé, avec la mutualité française, j'en discutais avec quelqu'un ici, l'un de vos frères qui a travaillé pour la mutualité française, ça en est très bien, l'idée c'était de dire, on va créer, puisque les gens ne sont pas au courant, on va créer une collection de romans policiers, et on va parler de scandale. Donc vous en avez eu un sur le Bart Winkler qui en a fait un sur les médicaments, Delta sur les maisons de retraite, et moi c'était sur mon histoire de pacemaker pourri. J'ai fait ce premier polar, qui était un bid total, j'ai dû en vendre 350 exemplaires, la plus mauvaise vente de Fleuve Noir. Et c'est à partir de là où la patronne de Fleuve Noir m'a dit, écoute, bon, tu démerdes bien en termes d'écriture, si un jour reviens voir si t'as un autre projet. Et un an plus tard, je suis revenu la voir avec l'autre projet, et Jacques Ravel, et Marcas. Voilà. Donc s'il n'y avait pas eu cette histoire de pacemaker, jamais je serais parmi vous. ni Jacques Ravel. D'ailleurs, Ravel ne s'appellerait pas Ravel, puisque c'est un pseudo. On ne serait pas parmi eux, on ne vous aurait jamais connu.
C'est un ouvrage qui s'appelle Panne de cœur, donc 350 exemplaires, ceux qui l'ont, il va prendre de
la valeur. C'est un collecteur.
C'est un collecteur en même temps. Il est temps de conclure. Merci Eric, c'était vraiment un très très moment passionnant sur cette histoire difficile. Merci à tous. Une conclusion simple, pour ceux d'entre nous qui ont quelques kilos en trop, je crois qu'il est urgent de les garder. Ça me paraît très important.
Alors moi, juste pour l'anecdote, j'ai fait une tenue une TBF et sur le Mediator. Et c'était tellement chaud, c'est une... Je peux même pas dire qui était l'obédience, qui était la loge, pour vous dire, parce qu'il y a énormément de professionnels de santé, là. La DBF. Et après, dans les, il y avait deux frères qui étaient, dont un qui était chez Servier. Et la réaction était de dire, je me souviens très bien, nous avons conscience qu'il y a quelque chose qui a été fait, qui n'est pas normal, nous avons pris toutes les mesures ont été prises, et il ne peut pas, un tel scandale ne peut pas se reproduire. Très bien. Je vais ensuite après prendre un verre, et l'un des frères me dit, oh ouais, c'est très drôle, là il part au Brésil, là, ils ont fait un congrès pour je ne sais plus quel cardiologue et tout, ils sont déjà trop fait. Bon. Pardon, je vais juste dire.
Voilà. Grand merci.